Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, consultation sur le Yémen à Genève, ouverture de la 29e session du Conseil des droits de l'homme avec un volet spécial sur les migrants. L'OIM déplore le sort des 48 migrants retrouvés dans le désert au Niger. La FAO publie un nouveau guide contre le travail des quelques 100 millions d'enfants dans le secteur agricole. En dossier, nous reviendrons sur les envois de fonds en provenance d'Europe. Enfin, dans Fréquence Santé, l'OMS cherche à renforcer les donations de sang. Des consultations sur le Yémen se sont ouvertes à Genève pour tenter de mettre fin au combat et engager un véritable processus de paix et de réconciliation. Le secrétaire général de l'ONU a rencontré en matinée une délégation du gouvernement en exil. Lors d'une rencontre avec la presse, Ban Ki-moon a appelé à une trêve humanitaire de 2 semaines à l'occasion du Ramadan. Alpha Diallo a suivi.
Il n'y a pas un moment à perdre, tel est l'avertissement du secrétaire général de l'ONU aux différentes parties yéménites qui doivent, selon Ban Ki-moon, mettre fin au combat et engager un véritable processus de paix et de réconciliation. Selon le chef de l'ONU, le tic-tac du temps qui passe n'est pas celui d'une pièce d'horlogerie, mais plutôt d'une bombe à retardement. À l'ouverture lundi des consultations de Genève, Ban Ki-moon a appelé à une trêve humanitaire.
D'abord, une nouvelle pause humanitaire pour que tous les Yéménites puissent recevoir l'assistance dont ils ont tant besoin et profiter d'un répit alors que commence le mois sacré du Ramadan. Mais, si nécessaire qu'elle soit, cette pause ne suffira pas, vu les difficultés d'accès et l'ampleur des destructions. And the scale
of destruction. Ban Ki-moon espère que cette semaine marquera le début de la fin des combats. Le secrétaire général a appelé les parties en conflit à parvenir à un accord sur des trêves locales, ouvrant la voie à un cessez-le-feu global et durable dans l'ensemble du Yémen. Il leur a demandé de revenir à une transition politique pacifique. Il faut juste signaler que le chef de l'ONU a rencontré une délégation du gouvernement en exil. Et pour des problèmes d'ordre logistique, celle des rebelles dans Sarula est attendue ce lundi à Genève. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
Genève toujours, le Conseil des droits de l'homme a ouvert ce lundi les travaux de sa 29e session. À cette occasion, le commissaire aux droits de l'homme, Zayd Raad al-Hussein, a déploré vivre dans une époque où les violations des droits de l'homme sont innombrables, dressant un véritable tour d'horizon des situations les plus graves et problématiques, allant de la Syrie aux droits des femmes et des personnes LGBT. La plus grande usine de la honte et le déni total des droits de l'homme, a-t-il notamment affirmé. Le point avec Isabelle Dupuis.
Dans son allocution, Zayd Raad al-Hussein a constaté que les troubles politiques, la répression, la violence et la guerre sont devenus si généralisés qu'ils ont un impact sur la vie des millions de personnes qui, au risque de leur vie, se mettent en quête d'un havre de paix. La migration, a-t-il affirmé, en est le symptôme. Le haut-commissaire est longuement revenu sur la situation en Syrie où, a-t-il dit, l'étendue et la nature des violations des droits de l'homme qui y sont commis sont un test absolu pour la communauté internationale. Zayd Raad al-Hussein a aussi dénoncé les exactions commises par les groupes Takfiri, notamment en Irak et au Nigeria. Le haut-commissaire a par ailleurs évoqué les critiques dont a été l'objet son bureau concernant la gestion des allégations d'abus commis l'an dernier sur des enfants en République centrafricaine. Il a assuré qu'il acceptera les conclusions de l'examen indépendant externe réclamé par le secrétaire général.
Le Conseil des droits de l'homme qui a également tenu un volet spécial sur la migration au cours duquel Zayd Raad al-Hussein a dénoncé la diabolisation que subissent les migrants dans de nombreux pays prospères. François Crépeau, rapporteur spécial sur les droits des migrants, a appelé de son côté les États à privilégier la mobilité dans leur politique migratoire afin de récupérer le marché de la mobilité des mains des passeurs. Intervenant au nom du groupe africain, Boudjema Delmi, ambassadeur de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies, à Genève, a lui aussi insisté sur la régularisation. On l'écoute.
Il est urgent et important de mettre un terme définitif aux activités illégales des réseaux de passeurs qui organisent des flux migratoires. La deuxième dimension viserait pour l'essentiel à se conformer aux engagements contractés de protéger les droits consacrés des réfugiés politiques et des migrants économiques ou écologiques par l'acceptation de leur accueil et leur installation jusqu'à la réunion des conditions favorables au retour de leur pays d'origine. Il y a l'impérieuse nécessité de respecter la liberté de circulation des personnes par la facilitation de l'octroi de visas et l'ouverture des espaces de la migration légale. Là aussi, les pays d'origine et de destination trouveront certainement un avantage comparé à coopérer pour la promotion de politiques concertées.
Et puis comme pour illustrer le triste sort des migrants clandestins au Niger, les autorités et des équipes de l'OIM ont retrouvé dans le Sahara 18 corps de migrants qui auraient péri de soif le 3 juin dernier. Ils ont succombé après s'être perdus alors qu'ils essayaient de rejoindre l'Algérie. 30 autres personnes ont aussi été retrouvées près de Tirkou dans le Sahara. Elles seraient mortes il y a plusieurs semaines. Cette tragédie met en évidence un danger redouté, le Sahara pouvant être aussi mortel que la Méditerranée. Explication de Christiane Bertium, porte-parole de l'OIM.
Sur les 18 personnes qui sont mortes de soif, elles étaient parties de Arlit au Niger dans le but de rejoindre l'Algérie. Ça voulait dire qu'il leur restait plus de 2000 km à franchir par le chemin le plus court. Leur véhicule a été pris dans une tempête de sable et ils se sont perdus. Ils s'est retrouvé en panne sèche alors que le chauffeur s'étant rendu compte qu'il s'était perdu, il tentait de retrouver les traces de son véhicule. Il s'est embourbé près d'un puits d'eau, mais qui était à sec. L'un d'eux aurait tenté de rejoindre la ville d'Assamaka, qui est près de la frontière du Niger avec l'Algérie, pour trouver de l'eau et chercher du secours, mais il serait tombé de son chameau et il serait mort également.
100 millions de filles et de garçons âgés de 5 à 17 ans de par le monde travaillent dans le secteur agricole en faisant des tâches dangereuses ou qui ne sont pas adaptées à leur âge. C'est ce que révèle le nouveau guide sur la prévention du travail des enfants dans l'agriculture, publié ce lundi par la FAO, guide qui donne notamment des mesures pour lutter contre ce phénomène. Ariane Ganton, experte de travail des enfants au siège de la FAO, explique pourquoi les enfants se retrouvent à travailler dans le secteur agricole.
Une des raisons principales est la pauvreté du foyer. Une des autres raisons possibles est la demande importante de main-d'œuvre et le manque de main-d'œuvre dans un pays ou une région donnée. Il faut aussi savoir que les enfants sont parfois choisis parce qu'ils sont perçus comme ayant moins de capacité de négociation par rapport à des adultes travailleurs. Parfois, ils sont perçus comme étant donc plus petits, plus fins et par leur physionomie plus aptes à accomplir certaines tâches. Une des autres raisons possibles est également les ravages apportés par le sida, la guerre. Donc il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent à devoir subvenir aux besoins de leur famille.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Une nouvelle étude publiée par l'IFAD, le Fonds international pour l'agriculture et le développement, indique que le transfert de fonds de migrants en Europe vers leur pays d'origine s'élève à 109 milliards de dollars. Ces transferts sont indispensables pour la vie de plus de 150 millions de personnes à travers le monde. Cette somme ne représenterait qu'un quart du flux mondial. Pedro de Vasconcelos est responsable du programme sur les moyens mis à disposition pour ces transferts à l'IFAD. Il revient tout d'abord sur le montant des flux en partant de l'Europe et leur destination finale au micro de Tsige Schifferau.
De manière conservatrice, le montant des flux qui partent de l'Europe monte à 109 milliards de dollars, dont une partie reste en Europe, surtout des pays de l'Est, et dont 73 milliards vont dans des pays en développement hors de l'Europe.
Vous avez émis une certaine réserve. Donc selon vous, est-ce que ces résultats pourraient être bien plus élevés ?
Absolument. Il n'existe pas vraiment de données absolument précises sur ces flux. Nous pensons en fait que ce montant peut être beaucoup plus élevé, car il est encore difficile de juger entre les données dans les pays qui reçoivent cet argent, d'être absolument sûr de toute la quantité. Mais une chose est certaine, c'est que l'on pense que ces flux devraient être plus volumineux que ce que l'étude prétend.
Est-ce que ce phénomène est en hausse ?
La hausse s'est rétablie, disons. Durant la crise des dernières années, ce flux d'argent s'était stabilisé, dans certains cas avait légèrement diminué. Et maintenant, nous revoyons, et c'est un phénomène aussi qui se retrouve au niveau global, car c'est une crise financière au niveau global qui a impacté aussi les flux. Mais nous pouvons dire maintenant que les aspects de la crise ont été dépassés, surtout avec les pays individuels. Nous voyons donc une croissance normale des flux d'argent, c'est-à-dire les migrants maintenant peuvent à nouveau envoyer un peu plus vers le pays d'origine.
Lorsqu'on parle de transfert d'argent donc de l'Europe, quel pays transfère le plus et vers quelle destination ?
Donc nous avons les 6 grands pays qui envoient de l'argent en Europe et hors d'Europe. Ces deux corridors se trouvent en fait les pays de l'Europe de l'Ouest ainsi que la Russie. La Russie est vraiment le top au niveau des pays qui envoient. La Fédération russe envoie surtout en Asie centrale et certains pays de l'Europe de l'Est. Ensuite, du côté de l'Europe de l'Ouest, nous avons la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, qui sont les grands pôles, on va dire, d'envoi de transfert d'argent. Et ces flux vont en général vers l'Asie et vers l'Afrique.
L'Europe serait-elle championne en matière de transfert d'argent?
Non. Les champions, on va dire, en ce moment, sont l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, qui sont numéro un en transfert de fonds. Et le continent européen, si on peut l'appeler comme ça, comme un pôle d'envoi de transfert de fonds, viendrait en seconde place.
Est-ce qu'on sait à combien s'élève à peu près la somme totale des transferts de l'Amérique du Nord vers le reste du monde?
Je ne pourrais pas vous dire exactement avec précision à la date d'aujourd'hui. Nous savons que c'est plus de la moitié des flux.
Avez-vous une idée de la somme envoyée en moyenne?
Oui. Alors, c'est également un phénomène similaire dans le monde entier. L'immigrant envoie en moyenne entre 200 et 300 dollars par transaction. Là où cela peut changer un peu, c'est dans le nombre de fois que ces transactions s'effectuent au niveau de l'année.
Fréquence santé. Santé.
La transfusion de sang et de produits sanguins aide à sauver des millions de vies chaque année. Mais l'Organisation mondiale de la santé signale qu'à peine 62 pays disposent d'approvisionnements en sang reposant sur les dons de sang volontaires non rémunérés. Une situation que l'OMS espère voir évoluer d'ici 2020, comme l'explique Tariq Yassaravitch, porte-parole de l'OMS, au micro de Florence Westgaard.
Cette année, la campagne est organisée sur le thème « Merci de me sauver la vie ». Et donc, en fait, c'est pour encourager davantage de personnes dans le monde entier, en fait, à donner leur sang volontairement et régulièrement, avec pour le slogan « Donner librement, donner souvent », le don de sang, ça compte. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de souligner ce besoin de donner son sang de manière volontaire, non rémunérée, pour que vraiment on arrive à avoir une sécurité sanguinaire, pour que les gens qui en ont vraiment besoin peuvent avoir accès à ce service qui est essentiel.
Oui, en effet, parce que donner son sang donc sauve des vies. Donc, est-ce que vous avez des chiffres du nombre de personnes sauvées grâce aux transfusions sanguines, justement?
Voilà ce qu'on sait, c'est que, par exemple, en 2012, près de 108 millions de dons de sang ont été collectés dans le monde. Toutefois, la moitié de ceux-ci ont été dans les pays à revenus élevés qui n'habitent que 15% de la population mondiale. Alors qu'on estime qu'il faut au moins 10 dons de sang pour une population de 1000 personnes pour garantir une disponibilité générale et suffisante. Aussi, ce qu'on veut dire, c'est que le pourcentage des dons de sang provenant des donneurs volontaires non rémunérés a progressé au cours de la dernière décennie et dans le monde. Et donc, on en est très content de ce fait. Mais il faut aussi dire que 75 pays en ce moment indiquent qu'ils sont en dessous du seuil minimum du sang. Donc, ce qui veut dire que ces pays n'arrivent pas vraiment à assurer la sécurité des quantités suffisantes de sang pour ceux qui en ont besoin.
Et donc, vous parlez justement des donneurs volontaires. Donc, quelle est justement donc la différence entre les donneurs volontaires par rapport aux donneurs rémunérés? Quel est l'avantage des donneurs volontaires?
Écoutez, ce sont les gens donc qui veulent vraiment s'inscrire dans cette optique de don de sang, donc qui partent là pour une idée d'aider la communauté et pas pour être rémunéré, d'autant plus qu'il faut vraiment que chaque don de sang fait l'objet d'un dépistage pour rechercher les infections, parce que c'est vraiment la base d'un approvisionnement sûr et suffisant dans tous les pays. Donc comment pour assurer à longue durée une quantité de sang nécessaire, le don volontaire non rémunéré est quand même la piste qui s'avérait la plus fiable.
Aussi, cette campagne permet de sensibiliser les personnes sur l'importance de donner son sang, comme par exemple donner régulièrement. Donc, y a-t-il a-t-il d'autres objectifs de cette campagne, justement?
C'est vraiment aussi de promouvoir cette idée qu'en donnant le sang, on sauve une vie et qu'il faut se mettre vraiment dans la peau de cette personne qui reçoit, parce que ça peut arriver à chacun d'entre nous. Et il faut imaginer donc le sentiment de la personne dont la vie a été sauvée. Et c'est pour ça qu'on dit merci de me sauver la vie, parce que c'est exactement ce qui fait un don à un volontaire non rémunéré de sang.
Et c'est avec Tariq Yasarevitch que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.